Acte Noir de chez Acte Sud, le déjà ancien Sueur Froide de chez De Noël, Seuil Cadre Noir, toute maison d'édition qui se respecte possède sa collection aujourd'hui de polar. Si les mises en scène des couvertures ont progressivement délaissé le noir comme couleur dominante, il ne disparaît pas pour autant du champ, ni d'ailleurs de la couleur des romans des auteurs, qui eux évoluent. On est passé d'un monde de forcenés de la série menée par des éditeurs peu regardants quant à la tenue des textes, soutiers confinés dans les espaces infernaux de l'écriture, à des écrivains dont les personnalités et les origines s'avèrent aujourd'hui très variées. Adieu les pseudonymes américains de possibles durs à cuire, bonjour par exemple Sandrine Colette, Colette avec deux L, qui vient de publier Les larmes noires sur la terre, justement dans la fameuse collection Sœur froide de Noël, représentante de ce qu'elle appelle elle-même le noir rural et qui fait parler de lui depuis quelques années. L'auteur, qui élève des chevaux dans le Morvan, se tourne avant tout vers, dit-elle, la psychologie des personnages et surtout l'atmosphère. Cela ne veut pas dire qu'elle fait une croix sur l'action, comme elle le confie à Muriel Steinmetz de Luma. « Je redoute le mélo autant que la fleur bleue, dit-elle, tant qu'à faire du noir, autant qu'il le soit vraiment. Comme je me ramollis avec l'âge, je ne tue pas forcément tout le monde. Mes premiers romans étaient, disons, plus expéditifs. » On croirait entendre un tueur à gages qui parle. Elle va chercher ses personnages dans nos réalités contemporaines et souvent dans ce qu'elles ont de plus désespérant. Dans son livre, essentiellement, des personnages de femmes entre délinquance et résistance et toutes habitantes d'une casse et dans les voitures même qui s'y trouvent. On évoquera aussi la figure de Victor Del Arbol, qui fit des études d'histoire avant de devenir policier à la Brigade des mineurs. Lui aussi cherche une forme de vérité dans la littérature noire. Les histoires qu'il raconte, imbriquées les unes dans les autres, n'ont d'autre but que de procéder à une généalogie du mal, nous dit Astrid de Larmina dans le Figaro littéraire. D'où vient la faute? Comment la méchanceté contamine-t-elle un enfant innocent? Des questions sans réponse immédiate, on s'en doute, mais dont l'auteur étudie les tenants et les aboutissants roman après roman. À l'instar de Victor Del Arbol, de nombreux acteurs de la vie policière se mettent à produire de la littérature de genre à leur tour. Nous avions déjà évoqué la figure de l'avocate assez haute en couleur, à vrai dire Anne-Laure Kerr, la semaine dernière. Entre-temps, elle a reçu le prix du Quai du Polar à Lyon pour son roman La Daronne, qui va à la fois du côté des traducteurs étrangers du Quai des Orfèvres et du trafic de drogue. Et bien cette semaine, c'est une chroniqueuse judiciaire, celle de Libération, qui reçoit les honneurs de son propre journal, Patricia Touranchot, qui publie au Seuil, et qui est une fée diversière de vocation, s'est approprié le 36 Quai des Orfèvres, ses flics, ses indiques et ses tueurs en série, comme le dit son titre. À la croisée de l'archéologie policière et du journalisme narratif, nous dit Willy Le Devin, son confrère, du journal, Patricia, ajoute-t-il, est le miroir journalistique de Martine Monteil, première taulière de l'APJ parisienne. Dans la maison police, elle faisait trembler autant qu'elle fascinait. Elle partage en outre la vie d'un flic de premier plan, Frédéric Pechnard, donc elle sait de quoi elle parle. Enfin, nous relèverons cette semaine la chronique que Mathieu Pott-Bonneville consacre à l'ouvrage de Daniel Heller-Watson, traduit de l'américain chez Seuil, consacré aux langues obscures. C'est très intéressant, il s'agit des langages cachés, codés, langue des voleurs, comme le dit le sous-titre, mais aussi celle des poètes. On pense bien entendu à Villon, mais bien au-delà, il s'agit de l'ensemble des langages secrets. Pour citer le philosophe, « mille manières, nous dit-il, dont les hommes ont tenté de ne pas se faire entendre, un fourmillement court sous la peau du langage ». Le rapprochement entre poètes et voleurs va bien au-delà de la simple anecdote biographique. Attention, Mathieu Pott-Bonneville développe une idée intéressante. D'une part, il se pourrait que ces usages périphériques ou parasites touchent au cœur de l'énigme de la langue, nous dit-il, là où parler suppose d'oublier chaque seconde à quel point les mots que l'on emploie sont d'abord étranges et demeurent impénétrables aux étrangers. Les langues obscures rappellent qu'en matière d'expression, l'opacité est le revers du sens. D'autre part, et surtout, entre les voleurs et les poètes qu'invoque le titre du livre, poursuit-il, une autre corporation mal famée s'insinue, celle des savants. Leur ambition sans doute est de porter le mystère des langues à la lumière de la raison, mais ils n'y mettraient pas un tel acharnement s'ils n'éprouvaient de plus trouble fascination au risque de se laisser déborder par leur propre désir de déchiffrement. Décidément, le côté obscur de la littérature et de la langue semble offrir mieux que de passionnants à côté, à savoir une pensée à part entière. À la semaine prochaine.